Fally Badou, votre invité ce matin est médecin, gynécologue, obstétricien.
Prix Nobel de la paix 2018 avec l'Irakienne Nadia Mourad. On le surnomme partout dans le monde l'homme qui répare les femmes. Chez lui en République démocratique du Congo, beaucoup l'appellent Papa Docteur. Bonjour Denis Mukwege.
Bonjour monsieur.
Et bienvenue, on est heureux de vous recevoir. Vous êtes de passage à Paris pour préparer le G7 qui est sous présidence française. Vous présidez le Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous venez, Denis Mukwege, d'un des pays les plus riches du monde, mais dont le peuple est l'un des plus pauvres du monde. Qu'est-ce que vous voulez dire aux représentants des pays les plus riches de la planète ?
Eh ben, si nous sommes riches, mais finalement notre population est pauvre, c'est également puisque l'égalité entre hommes et femmes n'est pas respectée. Les femmes congolaises portent l'économie de notre pays sur leurs épaules. Malheureusement, lorsqu'il faut répartir les ressources, les femmes sont absentes. Et je pense que nous devons faire très très attention à cette égalité hommes-femmes.
Vous voulez rappeler ce qui se passe aussi dans les pays du G7, en Europe en particulier, aux États-Unis en matière d'égalité hommes-femmes, vous voulez rappeler l'importance de ce qui a été conquis à qui en matière d'égalité ?
Absolument, je pense que aujourd'hui on voit très bien qu'il y a un recul par rapport aux acquis et aujourd'hui nous voulons tout simplement dire qu'il faut réaffirmer ces acquis et en fait consolider pour demain, pour les générations à venir, puisqu'il n'est pas question en fait de lâcher ce que les femmes ont déjà acquis depuis plusieurs décennies.
Je le dis en souriant, mais c'est quand même frappant de voir un Congolais et une Irakienne qui sont à la tête d'un conseil consultatif pour l'égalité pour les femmes et les hommes qui sont finalement, tous les deux, vous deux, la meilleure preuve que les droits de l'homme sont universels.
Absolument. Moi, j'ai toujours cru que on ne peut pas parler de la globalisation économique sans parler de l'universalisme des droits de l'homme. Et quand vous voyez certaines compagnies ou certaines entreprises qui vont dans des pays où le droit de l'homme n'est pas respecté, ce qu'ils font, vous comprenez très bien que nous devons vraiment pousser pour que les gens comprennent que l'universalisme des droits de l'homme est le seul moyen de pouvoir finalement avoir une équité sur le plan des droits de l'homme.
Mais vous savez que droit de l'hommiste en France, c'est parfois même une insulte, Denis Mukwege.
Je pense que ceux qui sont dans l'abondance ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Et je pense que dans les pays où le droit de l'homme n'est pas respecté, nous savons que c'est une denrée chère. Et donc, nous nous battons pour ces droits de l'homme.
En l'occurrence, vous êtes en première ligne en plus en République démocratique du Congo pour être les témoins directs de la prédation et des rapports d'inégalité, de l'exploitation des ressources naturelles. On va en parler. Ce qui est très fort, c'est de considérer qu'il y a tout juste 2 semaines, le Conseil de sécurité des Nations Unies examinait une résolution en faveur des droits des femmes en contexte de guerre. Un sujet que vous connaissez mieux que personne. Les États-Unis ont refusé catégoriquement qu'on fasse référence aux droits sexuels des victimes. Denis Mukwege, je ne comprends pas. Très sincèrement, je ne comprends pas. Après le prix Nobel de la paix qui vous a été décerné, après le discours puissant, fort que vous avez prononcé devant l'Académie Nobel, comment est-ce qu'un pays comme les États-Unis peut tout simplement refuser aujourd'hui de reconnaître qu'on fasse référence aux droits sexuels des femmes, des enfants victimes de viols, de tortures sexuelles en période de guerre ?
Je pense que moi, ça me paraît tout à fait comme une question plutôt idéologique. Et il est inacceptable que nous ne puissions pas parler de droits sexuels et surtout de la santé de la reproduction dans le contexte des conflits armés où les femmes sont, le corps des femmes est utilisé comme le champ de bataille où en fait l'appareil génital de la femme est visé. Et je crois que lorsqu'on refuse de parler en fait du droit à la santé de la reproduction dans une résolution, c'est choquant.
Mais comment...
c'est tout simplement ne pas comprendre de quoi on parle.
Mais je comprends pas comment c'est possible, Denis Mukwege. Je comprends pas.
Ben, ce que je viens de vous dire, c'est une question tout à fait que moi je considère idéologique, puisque par exemple, lorsque nous prenons en charge les victimes de violences sexuelles, une femme qui vous arrive après avoir été violée à l'âge de 16-17 ans et qu'elle arrive en déant 48 heures, n'est pas donnée à cette femme la pilule du lendemain, c'est une irresponsabilité, puisque cette femme va avoir un enfant issu du viol, cet enfant peut être rejeté par la communauté, cet enfant n'a ni identité, ni une filiation dans la communauté, c'est une épine irritative constante pour la victime de violences sexuelles. Et je pense que ne rien faire pour une femme dans cette situation, moi je considère comme médecin, comme tout simplement une irresponsabilité.
Il faut aussi mettre fin à l'impunité. C'est assez fort quand on écoute votre discours du Nobel le 10 décembre dernier. L'impunité, c'était ce par quoi commençait justement votre discours. C'était l'importance aujourd'hui de pouvoir poursuivre, de pouvoir juger ceux qui sont coupables de viol ou de torture ou de crimes sexuels.
Je crois que c'est la seule façon de faire comprendre, en fait, aux bourreaux qu'il est inacceptable que le corps des femmes ne soit pas respecté, et qu'il est inacceptable que le corps des femmes soit utilisé comme un champ de bataille. Là, on parle de viol avec extrême violence, où nous avions eu même des bébés qui sont violés.
Et des bébés.
Même des bébés qui sont violés. Et je crois que lorsque les hommes commettent de tels actes et qu'ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence, c'est autoriser des actes ignobles, des actes inacceptables.
On pense que c'est impossible. On pense que c'est impossible, que c'est impensable ce que vous racontez à l'instant. Vous l'avez vécu, vous l'avez subi, soigné. Une ambulance qui débarque dans votre hôpital à Panzi avec un bébé, un nourrisson, 18 mois. 18 mois.
Eh ben, quand j'ai soigné pour la première fois un bébé de 18 mois, c'était un choc, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe à l'hôpital, c'était un choc. Un bébé, comme parent, comme grand-père, je crois que c'était inacceptable. Et aujourd'hui, je crois que nous devons quand même traiter cette question avec le plus grand sérieux, puisque lorsque les gens croient qu'ils sont hors la loi et qu'il y a l'impunité qui règne totalement, ils ont commencé par les adultes, aujourd'hui ils violent les enfants. C'est pour ça que nous nous disons que la lutte contre les violences faites aux femmes doit commencer par la lutte contre l'impunité. Si en fait les hommes peuvent comprendre, les bourreaux peuvent comprendre qu'ils ne peuvent pas se permettre de violer les femmes ou les enfants sans conséquence, ça serait un grand progrès. Aujourd'hui, nous sommes très très heureux de voir le courage des femmes qui dénoncent. Il y a des mouvements qui ont vu jour les dernières décennies pour lutter contre le silence, puisque en fait le silence c'est l'arme absolue qui utilisent les bourreaux pour continuer à poser leurs actes ignobles. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque les femmes ont le courage de dénoncer, il n'est pas acceptable que nous puissions garder le silence par rapport à ces atrocités.
Vous avez soigné des dizaines de milliers de femmes dans votre clinique, dans votre centre en RDC. Comment est-ce que vous supportez, comment est-ce que vous arrivez à encaisser ce mal, le mal tout simplement?
Je crois qu'il y a un élément que j'ai pu découvrir. Lorsque j'ai soigné les premières victimes, effectivement, c'était démoralisant. Et à la fin, j'étais préparé pour plutôt soutenir les femmes qui viennent accoucher, lutter contre la mortalité maternelle. Et du coup, je me suis retrouvé à soigner plutôt la bêtise humaine. Et je crois que ce qui fait que nous puissions continuer, c'est le courage des femmes. Je ne suis jamais, et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive jamais à comprendre les femmes qui sont traitées de cette façon. Mais ces femmes, lorsqu'elles se mettent debout, lorsqu'elles se réveillent, ce sont des femmes qui se réveillent, pas pour réclamer leurs droits, mais pour réclamer le droit des autres, en commençant par leurs enfants. Et ça, je trouve formidable. Je crois que c'est un moteur puissant pour continuer à faire le travail que nous faisons.
Parce que pendant longtemps, vous n'arriviez pas à dormir. Vous faisiez des cauchemars.
Absolument.
Vous demandiez, et si ça arrivait à ma fille ?
Absolument. Je crois que ces sentiments, tout simplement penser que ça peut arriver à une personne chère, vraiment, ça m'empêchait de dormir. Et il fallait absolument ce courage-là de voir les femmes, leur capacité de reprendre la vie normale, leur capacité de se battre non seulement pour leurs droits, mais pour le droit des autres, pour pouvoir finalement commencer à mener une vie normale.
Et d'autant que pendant longtemps, personne ne vous écoutait. Personne ne vous écoutait, Denis Mukwege, parce que vous parliez de vagin et donc d'insanité, et que du coup, vous étiez même un sujet de moquerie. Personne ne comprenait pourquoi vous continuez à faire ça.
Absolument.
Alors que vous auriez pu partir, faire autre chose.
Lorsqu'on parlait du vagin, ça choquait. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, beaucoup plus facilement.
Grâce à vous.
Bon, je ne sais pas, mais nous sommes peut-être nombreux à pouvoir en parler. Et lorsqu'on fait du vagin un tabou, ça permet en fait de pouvoir l'utiliser d'une mauvaise façon. Mais lorsqu'on peut en parler librement, donc les femmes aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes qui en parlent librement. Et donc le fait de parler librement, ça fait que aussi on peut arriver à shifter, donc à faire passer la honte donc des victimes vers le bourreau. Et ça, c'est très important.
Et qu'il y a un espoir, et qu'il peut même y avoir de la joie. Dans votre hôpital à Panzi, il y a la Cité de la Joie qui est à côté, qui est un centre de réhabilitation des femmes, où il y a des femmes qui sont là et qui dansent parfois avec vous, parce qu'on oublie Denis Mukwege, que souvent on vous accueille quand vous êtes revenu du prix Nobel. Avec le prix Nobel, c'est comme si vous reveniez avec la Coupe du Monde.
Vous savez, lorsque les femmes passent par les quatre piliers que nous utilisons, ce sont des femmes qui sortent plutôt comme actrices du changement, et ce sont des femmes fortes.
Vous reconnaissez la chanson ? C'est Fally Poupa, qui est un artiste qui était là justement quand vous avez reçu le prix Nobel et qui vous a accueilli à votre retour en République démocratique du Congo. Merci infiniment, Denis Mukwege, d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Merci et bon séjour en France.
C'est moi qui vous remercie.